Je suis contente de la nature que j'ai aussi. Encore, je chantais du matin au soir, je chante, et ça fait quelques années que je chante plus comme avant. Quand même, ça, je dois reconnaître. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Des fois, ça m'arrive, une fois quand je suis dans mon lit, je reprends un peu. C'est vrai qu'étant jeune, j'ai aimé chanter, pas trop mal, je crois, on me l'a souvent dit. Et j'avais un professeur de piano, de chant, qui me préparait pour aller au conservatoire à Lille. Et j'ai préféré me marier à 19 ans. Bon, mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé ça.
Quand j'étais adolescent, n'est-ce pas, dès que j'ai commencé à m'éveiller à l'appel de la femme, quoi, j'étais d'une timidité inouïe vis-à-vis des femmes, qui touchait presque à une espèce de peur, de panique. Et toute ma vie, finalement, a été pour combattre cette frayeur originelle que j'avais vis-à-vis des femmes.
Dans ce petit livre de format oblong, de format à l'italienne, il avait rassemblé, alors là, des photographies très anciennes, des photographies pittoresques, et qu'il était allé chercher chez tous les collectionneurs de photographies anciennes, photographies aussi bien de coins de Paris anciens ignorés ou transformés, ou alors de certains bals anciens, de certaines danseuses, de certaines actrices, ou alors même de photographies tout à fait anonymes, sous lesquels il s'amusait alors à composer des légendes, comme s'il voulait reconstituer un album de famille.
À la maison, alors moi j'ai un petit frère qui recevait toujours les meilleurs cadeaux. Donc par exemple, il avait les petits personnages Star Wars, c'était lui qui les recevait, moi je recevais des Barbie et des poupées. Bon. Et donc en général, on jouait soit avec ces personnages à lui, soit avec les deux, c'est-à-dire qu'on faisait un mix entre mes Barbie, ses Musclor, ses Yoda et ses Luke Skywalker. Personne ne s'est jamais demandé ce que j'aimais.
Il y en a d'autres aussi, d'autres qui sont morts maintenant, Victor Barthelmy notamment, qui était un petit personnage extraordinaire, qui avait l'air de sortir d'un daguerréotype, qui vous chantait ses chansons du Second Empire, qui était un personnage très amusant, très gentil et très pittoresque.
Moi, je suis admiratif, hein, vraiment. C'est pas comme ça que j'ai managé de mon temps, parce que c'est vraiment c'est son équipe, c'est sa cuisine, c'est lui aujourd'hui. Hein.
J'ai eu envie, si vous voulez, moi-même, de devenir suffisamment fort, vaillant, héroïque, beau, pour pouvoir ensuite, peut-être alors, pour pouvoir les posséder.
C'était à la librairie La Une, entre le Café de Fleurs et le Café du Deux Magots. Et justement, la réflexion qu'il m'avait faite était tout à fait caractéristique. Il me faisait voir le carrelage de la librairie de La Une. Il me disait, voyez, ce carrelage, eh bien, c'est l'ancien carrelage du bouillon Duval. Et en effet, la librairie La Une s'est installée dans cet ancien bouillon, qui était tout à fait le bouillon type, le restaurant type du vieux Paris.
Maintenant, ce besoin de possession en moi s'est atténué. Parce que je ne pense plus tellement qu'on puisse réellement posséder quelque chose. Surtout une femme, oui.
Aux alentours des années, du début des années 70, ce qui n'était jamais arrivé dans les autres générations, c'est que la jeunesse a vécu sur le mode de la nostalgie. C'est-à-dire que d'habitude, chaque fois que les gens avaient 20 ans, ils vivaient au présent, c'est-à-dire ils avaient leur propre... Tandis que pour la première fois, la jeunesse vivait son angoisse sous le mode de la nostalgie. Alors c'est là où je me suis senti vraiment de mon époque.
Ce sont les photographies du Second Empire, en moyenne, sont les photos qui ont été prises vers 1860. Il y en a pourtant de plus anciennes, par exemple j'en ai une sous les yeux, qui représente les moulins, les fameux moulins de Montmartre, et alors ceux-là pris en 1845. Et c'est extraordinaire de voir les grandes ailes de ces moulins dominant les tout petites maisons d'un Montmartre qui est aujourd'hui bien sophistiqué.
J'avais beaucoup de poupées, de peluches, des Barbies, oh là là. J'avais pas de trucs tellement pour les garçons. Non, c'était assez genré, surtout qu'on était deux petites filles.
Oui, moi je dis que l'argent, ça fait quand même le bonheur.
Ah ben ça, c'est sûr.
Quand on peut dépenser sans compter, c'est quand même mieux que maintenant, qu'on a 2000 euros pour rien ici.
Cette avenue Montaigne qui s'appelait à ce moment-là l'allée des veuves. Et Cher René écrivait, avec Valentino, où l'on allait l'hiver, c'était le bal le plus célèbre de Paris. On y dansait l'été, et ces belles allées soigneusement sablées, ces pelouses peignées et fleuries, étaient, aux merveilles, dit Cher René, éclairées de 3000 becs de gaz. Lorsque ma bille qui avait débuté au Ranelagh mourut en 58, ce fut sa veuve qui continua à distribuer les cartes d'entrée.
J'avais des déguisements aussi beaucoup. Je sais qu'avec ma soeur, on aimait vachement ça. La dinette, les trucs comme ça. faire des cabanes dans le jardin et tout. C'était l'aventure.
Je me rappelle que moi, quand j'avais 20 ans, par exemple, les gens de mon âge qui s'intéressaient à la politique ou à des choses comme ça me considéraient comme un... ne comprenaient pas, par exemple, que j'allais dans des magasins pour essayer de retrouver des vieux 78 tours ou tout ça. Alors que maintenant, j'ai parlé avec un garçon qui a 20 ans, c'est-à-dire qui a presque 10 ou 12 ans de plus que moi, et pour eux, ça leur semble absolument naturel. On n'est que le reflet dans les livres ou dans le cinéma ou dans un gigantesque phénomène général.
Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sur la fleur en gouttes de sang. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde.
J'ai passé toute mon enfance dans le 6e arrondissement, c'est-à-dire les bords de la Seine, Saint-Germain-des-Prés. Et évidemment, du temps de mon enfance, c'était un quartier où il y avait encore la rue Dauphine, tout ça, c'était un quartier où il y avait des artisans. C'était encore un quartier assez provincial. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une espèce de... Je n'aime plus m'y retrouver. C'était parce que le quartier a changé, puis j'ai l'impression que mon enfance est terminée. Alors,
je pense que cet univers est extrêmement menacé parce que au niveau de l'enseignement du second degré, beaucoup de classes de grec deviennent très faibles, ou même on refuse de les ouvrir parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, même quand il y a des élèves qui souhaitent en faire, ce que je trouvais tout à fait inadmissible. Et même quand il y aurait des élèves en nombre suffisant, souvent on invoque des raisons de commodité.
Je ne dirais pas c'était mieux avant, mais il y avait quelques points où hier c'était mieux.
Alors Alphonse Allais disait, on a beau dire, plus ça ira et moins on rencontrera de gens ayant connu Napoléon.
À l'époque, tout le monde avait les chèvres à peu près au village. Avant, ouais. Et alors les filles allaient garder les chèvres toutes ensemble et ça les promenait, elles sortaient comme ça, dans les garrigues, là, au bas de la montagne, de la gardiole. C'était une promenade pour les filles.
On était moins revendicatifs, on était là, on était tout le temps en train de regarder les autres. Bah, lui,
c'était un pays dont on n'a même pas idée aujourd'hui. C'était le Moyen-Âge, ou presque. Enfin, j'étais dans un collège religieux pendant 7 ans de ma vie. On se levait à 5h30 tous les matins, on allait à la messe tous les jours, on chantait des cantiques tous les jours. Enfin, c'était un monde.
Le respect des gens... moins de violence.
On ne connaissait pas les écrivains de l'époque, n'est-ce pas? Nos professeurs, le manuel, c'était celui de l'abbé Calvé, vous vous en doutez. Et Baudelaire était peut-être cité, mais comme ça, à la fin du cours.
C'était ouais. L'époque où Gabriel de Lautrec avait dit de l'éléphant que l'éléphant est un animal. Un animal d'une telle chasteté qu'on en a vu observer le célibat pendant plusieurs générations.
Mais les Gides, les Proust, je les découvrais dans un magazine dont on ne dira jamais assez le bien qu'il a fait pour la culture dans les provinces sous-développées. C'est Comédia. Non, l'Université des Annales, vous savez, qui avait des conférences et qui publiait ses conférences sur Gide, sur Proust, ou alors je lisais avec émotion, entre parenthèses et en Italie, la salle enthousiaste se lève, applaudit longuement, là, etc. Je me disais, quel monde merveilleux que celui-là.
Si on a des problèmes, si on a des chagrins, si on a des deuils, il y a des tas de choses, hein, de l'argent qui manque, on apprécie la vie après peut-être beaucoup plus.
1900, quelle belle et bonne époque. Et la vie était si agréable, si facile. Et quelle douce quiétude on avait. Et cette franche gaieté que rien n'obscurcissait, tout le monde était de bonne humeur. Et on s'amusait d'un rien. Et vous vous rappelez, mais quelle pléiade d'artistes incomparables on avait. Sarah Bernard, Mounet Sully, Lucien Guitry, Coquelin Aîné, il y avait Barthère et Jeanne Granier.
Sans problème, on n'en a jamais eu, pas de problème, c'est pas possible. Avec 5 enfants, j'ai eu 5 enfants, la dame aussi, elle en a eu 4. 5 enfants dans une pièce, l'eau était dehors, les water aussi, il n'y avait pas d'électricité, c'était une lampe à pétrole tous les jours, voilà, le soir. Et ma mère nous a sortis de la pension pour partir en exode pendant la guerre. Elle est partie avec nous tous. Et quand on est revenu de cet exode, on s'est retrouvés dans ce même cirque de baraque. Alors, c'était vraiment une baraque. Voilà. La vie n'est pas faite que de roses.
Hein. C'était bien plus dur quand même. On n'avait pas tout ce qu'on veut comme maintenant. C'est pas pareil. C'était l'argent qui tirait le plus, qu'est-ce que vous voulez. On ne gagnait pas beaucoup. Mon mari a débuté cantonnier avec 65 francs par mois. C'était les anciens francs, bien entendu. Et puis on lui retenait 4 francs pour la retraite par mois. Ça faisait pas beaucoup pour vivre avec déjà deux enfants. Ça faisait pas beaucoup par mois.
Je trouve que c'est surtout l'époque où on ne s'occupait pas d'argent.
À l'époque, je disais, ça me fait plaisir, parce que, bon, on l'achète pas parce que c'est trop cher. Oui. Il venait à la maison, il prenait la voiture, et puis il retournait le chercher, il revenait avec Zorro Spété. Je dis, écoute Marcel, t'es pas raisonnable. C'est du moment pour me faire plaisir. C'était ça mon dernier mari.
Puis vous vous rappelez pas des discussions très passionnées sur les productions de Rodin?
À Noël, on avait une orange et on était heureux.
Ceci dit, on a connu quand même, nous, des temps, surtout nos parents, hein, dites bien que c'était beaucoup plus difficile que maintenant, croyez-moi.
Hein? Ah oui, parce que dis donc, parce quand que ils travaillaient.
Dis donc, le travail, je me souviens que ma mère, même ses parents, tout ça, ça travaillait le dimanche, ça travaillait tout le temps. J'ai un beau-père qui a travaillé jusqu'à 72 ans. C'était un Italien d'ailleurs, vous voyez. Un Italien qui était venu dans les années 1920, après la guerre de 14-18. Il travaillait énormément, mais voilà. Ah, oui. Il faut du travail, il faut des loisirs, il faut la paix.
C'est plus la même vie.
Il faut ce qu'il faut, voilà.
Dans mon état de mon temps, on était dépendante un peu du mari quand même, hein. Mais j'ai très vite compris les femmes qui voulaient, mais j'enviais quand même un petit peu après les. Surtout que je faisais partie après des retraités de l'enseignement.
C'est un silence impressionnant en cuisine, et même au moment du coup de feu. C'est au doigt et à l'œil que ça se passe, et non pas à la voix. Et pourtant, celui qui était le chef de cuisine il y a encore 20 ans de mon temps, on l'appelait l'aboyeur. C'est celui qui aboyait les ordres. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus d'aboyer, il s'agit en effet, à la manière d'un chef d'orchestre, de fixer des yeux, de donner, de faire des gestes, de chuchoter les choses. C'est très impressionnant, vraiment. C'est très beau à voir. Hein. Mais je suis baba, je dis, mais
que... À notre époque, on apprenait qu'après la mort, il fallait rester toute seule. On n'avait pas le droit au bonheur. Il fallait penser qu'à la personne qui était partie, ou les personnes, ça dépend. Un homme pouvait se remarier ou se mettre avec une personne comme ça, oui, mais pas nous, pas les femmes, non. Ah non, c'était un péché, si vous voulez. Ah oui, c'était pas accepté. Non.
Je parlais à voix haute et on me répondait « oui, chef ». Je suis de cette école, moi.
Je me rappelle comme un des plus grands souvenirs de théâtre de ma vie. Un jour, il y avait une représentation à bénéfice au Trocadéro et où Barthé et Lucien Guitry étaient convoqués pour jouer le troisième acte du Misanthrope de Molière. Ils ont déjeuné ensemble, ils ont causé, ils ont naturellement oublié l'heure, et on leur a téléphoné du Trocadéro à 3h moins le quart, on vous attend arriver. Ils sont arrivés en trombe, n'ont pas eu le temps de se maquiller ni de s'habiller, et ils ont joué Lucien en veston et Barthé en tailleur. On avait l'impression de l'éternel.
Nous avons parlé longuement de Sarah Bernhardt, et pas encore de celle qui fut sa contemporaine, et sans doute avec Sarah, la plus grande comédienne de son époque.
Et de bien d'autres époques. Car tu veux parler certainement de Réjeanne, épouse de Porel, directeur du théâtre du Vaudeville, et dont elle fut la gloire, en créant là aussi bien Germini la Certeux que Madame Sangène, puis qui eut elle-même son théâtre, Rue Blanche.
Théâtre que plus tard acquit Volterra, en faisant disparaître le nom de Réjeanne du fronton de l'édifice.
Soyons justes, ce fut sur la demande même de Réjeanne, qui avait aménagé la salle avec un goût que l'on ne retrouvera que rarement, même dans les théâtres parisiens. Si, la salle d'Onou, ordonnée par cette exquise parisienne Jeanne Renoir, et peut-être le théâtre des arts que Madame Roubejanski éclaira de lustre vénitien, mais qui, hélas, va disparaître. On va y construire un bâtiment pour les assurances sociales, je crois.
Mais ça n'existait pas avant, on n'avait pas ces soucis-là.
Mais non, mais vous subissiez. Une fois qu'on était mariés, on subissait. Enfin, ce que j'en
oui,
parle.
Mais on voyait
je suis mariée à 49 ans, alors.
Jadis, on était beaucoup plus sérieux quand on fréquentait quelqu'un. C'était avec des projets. Eh bien, tous n'allaient pas au bout, mais enfin, il y en avait beaucoup. Tandis que maintenant, ben, il faut d'abord laisser pour être sûr.
Oui, mais à votre époque, et puis peut-être la mienne, on subissait plus. C'est-à-dire que même si ça n'allait pas, vous restiez quand même.
On restait.
Voilà. Oui. Alors que maintenant, ça va pas, ça va la aussi trop vite, ça.
La femme était soumise.
Soumise, voilà.
Oui, de mon temps, on lisait des livres, on composait des sonnets sur le chemin de l'école et on récitait du Balzac à la récréation entre deux alexandrins. Nous n'étions pas abrutis par les écrans.
Je vais rencontrer Sardou à la pâtisserie qui faisait le coin de la rue Favart et des boulevards. Debout devant les étagères, il mangeait des millefeuilles à deux mains, sans s'inquiéter des miettes qui tombaient sur son paletot. Il se tourna vers moi, et avec son accent qui lui faisait rouler les airs, « Mangez des gâteaux, jeune homme, ça rajeunit !» Du moins, certains vieillards qui en furent privés dans leur jeunesse pensent ainsi. Et voulant se rattraper, n'attrapent que des maux d'estomac. Et d'autres font la même bêtise avec l'amour, mais sa perlipopette, cette maison est pleine de courants d'air, sortons. Il est là un fiacre, coché au grand opéra, comme on disait sous l'Empire, que vous n'avez pas connu. Il faut que j'aille surveiller les cœurs. Il n'y a rien de plus bête, dit-on, qu'un ténor. Eh bien, il y a les cœurs. Et les compositeurs de musique en fourrent partout sous prétexte qu'il y en avait dans les tragédies grecques. Alors, vous avez une centaine de bons hommes et de bonnes femmes qui ralentissent l'action et chantent à peu près faux en cherchant des yeux dans la salle leur crémière à qui ils ont donné leur billet de service.
Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70-80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire. On pouvait... le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis.
Moi, je me rappelle qu'on avait 13 oranges pour 12 sous et des belles.
Parfaitement.
On avait aussi du sucre, et bien ça coûtait 13 sous le kilo. Du pain, mais du pain, c'était 4 sous la livre. 7 sous le kilo. Je crois même qu'il y avait pour 4 livres, il y avait pour 13 sous.
On peut plus rouler vite. Alors qu'avant, on mettait 6 heures pour aller à Marseille, il n'y avait aucun malaise, c'était bien. La vie est moins souple, moins détendue que dans les années 80, que tout ça. Bon, voilà.
Moi, j'ai connu ça. Des messieurs mariés, bon, ben, la femme, on la mettait de côté, puis quand elle était veuf, oui, il reprenait notre femme, mais la vie était mieux pour la deuxième. Il allait en voyage, il allait au restaurant, qu'avec sa bonne femme, il ne faisait rien.
Il n'y a pas que du mal, quoi.
Non,
il
non, non.
Ça dépend des caractères.
Oui,
ça
oui. Moi, j'ai vu ça dans ma vie. Hein. J'ai vu ça.
J'ai connu les œufs à 6 sous, la douzaine.
La douzaine.
Et on en avait 13 parce qu'il y avait l'œuf de politique.
J'étais au lycée de 1965 à 1968 dans un lycée de jeunes filles à Metz, en Moselle. Et nous avions un uniforme, c'est-à-dire... Mmh. Un tablier, il y avait la semaine du tablier beige et la semaine du tablier bleu. Et nous devions avoir brodé sur notre tablier en rouge notre nom de famille et notre numéro d'internat. Et il m'est arrivé une fois, j'avais un tablier neuf, je n'avais pas eu le temps de le broder complètement mon numéro d'internat et j'ai été collée le samedi après-midi après 16h jusqu'à 19h pour cette faute commise. Et comme j'étais interne et que j'avais 2 heures de bus pour rentrer chez moi le week-end à la maison, j'ai pu prendre mon bus après 19h.
Eh bien moi je me rappelle d'un tramway qui était très élégant. C'était le tramway de la rue de la Muette, rue Tédebout. Oh. On rencontrait tout Paris dans ce tramway-là.
On ne faisait rien en se hâtant de mon temps.
On jouissait de la vie pourtant tout autant. On ne faisait pas sur une voisin du 120 pour arriver dans le ravin. Dans un bel équipage, à deux chevaux, pas davantage. On partait en promenade à la cascade. De montant, on prenait l'air tout autrement. De montant, on marchait beaucoup plus lentement.
En principe, elle doit rester dans son foyer. C'est absolument bon. Mon opinion, mon idée là-dessus, je suis père, époux, et je crois que la femme doit rester à son foyer.
Attendez, déjà, un homme qui avait la santé et du travail, c'était beau, s'il ne buvait pas. Vous ne pouvez pas demander mieux.
On se mariait réellement avec amitié, parce qu'il y avait un moment qu'on se connaissait.
Si mon métier me permet de pourvoir mes besoins, je pense que la femme doit rester au foyer.
Moi, je l'ai raccommodé chez les autres.
Moi aussi, moi, j'ai fait des ménages, je faisais les ménages. Il fallait bien faire ça. Un homme, ça demande quand même un grand entretien. Hein. Parce que dans le temps, vous savez, il fallait beaucoup raccommoder. On n'achetait pas comme ça. Vous savez, il fallait remettre les cols des chemises, les cols des poignets, de tout. Il fallait tout raccommoder. Même moi-même, on portait des bas avec des semelles.
S'il faut payer quelqu'un pour garder le gosse, moi aussi, il faut qu'il reste à la maison.
Parce que je vois les employés, ils payent 45 000 francs un gosse à garder. Alors... Faut mieux qu'elle reste à la maison avec deux gosses.
De toute façon, quand il y a des enfants, une femme doit rester chez elle, c'est pas d'erreur.
On projette toujours dans le passé le plaisir qu'on a à y songer. Je crois que, par exemple, ce qui fait le bonheur de l'enfance, vu de loin, c'est le plaisir qu'on a à se rappeler son enfant. Parce que c'est un plaisir évident.
Ma mère était très douce. Alors ma mère, parce qu'elle était très malheureuse, elle, avec mon père, alors elle me disait, écoute, Fernande, fais comme moi, sois souple. Ben, j'ai dit, oui, mais des fois, maman, tu sais, mais elle dit, ça se passera, tu verras. Tu verras que ça se passera, elle dit. Et en effet, je l'écoutais, puis ça se passait.
Vous savez, il ne fallait pas aller se plaindre chez moi, je sais, pour moi, il n'aurait pas fallu que j'aille me plaindre chez mes parents. T'es mariée, t'as des gosses, mais débrouille-toi, arrange-toi.
Moi, je me souviens, ça me revient à la mémoire, les jolies promenades au bois, les après-midi, les élégances dans cette allée des acacias, avec ses superbes voitures, ses somptueux équipages.
Je suis élève de l'ENA. Avant, j'ai fait l'école polytechnique. Si j'ai fait ces deux écoles, c'était parce que je voulais servir l'État. Or, l'État, c'est un ensemble de corps, souvent très fermés sur eux-mêmes, et également qui souvent défendent leurs privilèges. Comment s'étonner alors que dans une école comme l'ENA, et même dans l'administration, ce soit l'esprit de carrière qui l'emporte le plus souvent sur le sens du service public, et que tous les efforts que nous faisons pour développer la formation à l'école échouent en grande partie à cause de cela. On nous reproche aussi d'être des technocrates. Je pense que c'est une fatalité dans un État comme le nôtre et dans une société qui est paternaliste et qui est centralisatrice.
Regardez, un pays comme l'Angleterre, des petites choses anodines par exemple... En France, on ne peut pas marcher sur les pelouses. Pourquoi en Angleterre, on peut marcher sur les pelouses, on peut dormir sur les pelouses? Pourquoi on ne peut pas fumer dans le métro, dans les cinémas? Mais c'est... je comprends pas.
Avant, on aimait pour toujours, on n'avait qu'un seul amour avant. On pouvait draguer et puis ensuite s'aimer avant. Il n'y avait pas les réseaux alors, on lisait les journaux avant. C'était fort la famille comme un soleil qui brille. Ah, c'était mieux avant. Ah, c'était mieux avant.
C'était un homme charmant qui faisait le ménage, qui faisait la cuisine, faisait tout ce que je n'aime pas faire.
Les gens sont bien tous plus heureux maintenant qu'on n'était pas autrefois. Et puis comme j'ai entendu dire à mes parents, avant c'était encore pire. Ils mangeaient du pain mais il n'y avait pas beaucoup de blé dedans.
C'était mieux avant, ouais c'était mieux avant, sans être connecté. On parlait pour de vrai, ouais c'était mieux avant.
L'argent fait le bonheur. Sans argent, on n'est rien. Tout le monde veut gagner de l'argent. Tout le monde se met en quatre pour avoir un peu d'argent. Alors les gens qui me sortent, oh, c'est d'une vue matérialiste, moi j'en ai rien à foutre. Moi je vois que sans argent, je m'emmerde, je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux. Il me faut mon petit bain chaud, il me faut mon petit steak tous les midis. Moi j'aime ça. Et sans argent, il n'y en a pas.
Je pense que ce sont probablement les enfants qui ont tué notre vie de couple.
Nous habituons à l'époque un studio de 20 mètres carrés, ce qui réduisait à néant notre intimité.
vous voyez bien l'époque telle qu'elle est. Il n'y a pas tellement besoin de la décrire. Alors elle est à la fois assez pitoyable, assez misérable aussi. Vous voyez les débats d'actualité, les thèmes sociétaux qui ont complètement envahi l'univers médiatique. Il y a peut-être un manque de hauteur, voilà, un manque de distance aussi.
Eh bien, quand on me demande si on mange aussi bien aujourd'hui que de mon temps, eh bien oui, on mange aussi bien que de mon temps.
Moi, je travaillais avec la culture, avec deux vaches, pour en élever mes enfants, comme ça. Mais je n'ai pas bien travaillé autrement, je me suis placé étant jeune, mais c'est tout.
Eh bien, parce qu'à l'heure actuelle, il faut travailler à deux.
Oui, puisque ça permet d'avoir l'équilibre financier.
Puis enfin, ma femme ne voudra pas rester à la maison. Elle est coiffeuse et elle a un métier qui lui plaît énormément.
Je suis charentais et j'aurais bien voulu, comme beaucoup d'autres, rester dans la région auprès de la famille parce qu'on a été élevé là. Mais à la sortie du lycée, pas de travail, il a bien fallu partir vers les régions industrialisées. Là, c'est la vie en foyer où on se trouve affronté aux réalités, c'est-à-dire des salaires de 600 francs et payés pour se loger et se nourrir 450 francs ou 500 francs. Dans les entreprises, on subit diverses pressions quand on veut s'organiser. Là, c'est le licenciement. Là, c'est les pressions. Chez nous, ça se passe différemment. On a trouvé une autre solution. On donne de la promotion aux gens. Et puis, ma foi, ils s'y sentent petit à petit à l'aise et ils abandonnent cette conscience collective pour s'en sortir eux-mêmes. Ça, c'est dangereux. Maintenant, ce qu'on veut, c'est être libre. La liberté, c'est d'abord choisir. Choisir, ça s'apprend enfant. Et après, on veut prendre des responsabilités. On va avoir des responsabilités et de l'initiative dans le travail. Voilà ce qu'on veut.
La syntaxe s'effondre, le vocabulaire se rabougrit. Et si l'Académie française peut aider à y remédier en rappelant que la langue française repose essentiellement sur la littérature et que j'y contribue modestement, eh ben, tant mieux, je le ferai.
J'ai passé 5 ans dans l'armée et dans les sous-marins. Et quand j'en ai eu très marre, parce que ça ne pouvait pas durer, c'est pour ça que je l'ai quitté et que je suis allé dans les entreprises. Malheureusement, je me suis rendu compte très vite que le climat qui régnait dans les entreprises était très proche de celui qui régnait dans l'armée. C'est bien pour ça que j'ai décidé de militer et politiquement et syndicalement. Il est essentiel de s'organiser. Il faut que tous les jeunes s'organisent et que deviennent... conscient que la transformation de la société, elle peut se faire, c'est pas du blablabla. Il y a le problème du conflit de génération. C'est grave que nos pères nous engueulent bien souvent parce qu'on fait de la politique, etc. Ils nous traitent de casseurs, beaucoup nous traitent de casseurs, mais bien souvent les casseurs ne sont pas ce qu'on croit. Ils nous traitent de casseurs justement parce qu'ils ne veulent pas que ça change, eh bien nous, on chargera que ça changera.
Depuis mai 68, il y a un effondrement de toute autorité. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de prof, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de surmoi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de valeur. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut.
Je ne suis pas spécialement révolté. Il y a des choses que je trouve exagérées. Toujours cette question, ces remarques là, oh, de mon temps, c'était pas comme ça, c'est absolument faux. Puisque les gens qui ont maintenant, mettons, 40 ans de ça, ont connu, ont été Zazou, par exemple, à Saint-Germain-des-Prés, ils avaient aussi les cheveux longs, ils avaient une mode que tout le monde critiquait, que leur père critiquait. Donc c'est un éternel recommencement, de toute façon, il n'y a pas besoin d'en faire un drame. On dirait, les jeunes de maintenant, c'est pas vrai, les jeunes de maintenant, ils font beaucoup moins de choses qu'à l'époque, dans le fond.
Mais je crois que c'est une époque heureuse pour nous. Surtout parce que nous étions jeunes à ce moment-là et que nous avons vécu notre bonheur sans nous apercevoir de notre bonheur. Vous savez que c'est une des dures lois de la vie, qu'on ne s'aperçoit qu'on est heureux qu'après l'avoir été.
Quand on dit c'était mieux avant, ça tombe bien, j'y étais. Mmh. Et je peux en parler. Et par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple au hasard, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, etc., rien que des braves gens qui ont réussi à faire 45 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale, etc. Nous n'avons pas ça, écoutez, donc, par conséquent, il n'y a vraiment pas photo entre les deux états du monde.
La conclusion tient dans 4 charmants vers de ce pauvre Henri Murgère, 4 vers aujourd'hui oubliés. Ce n'est qu'en remuant la cendre de ces beaux jours qui ne sont plus, qu'un souvenir pourra nous rendre la clé des paradis perdus.